Chapitre 7. Cette histoire eût pu rester ignorée si Charles n'avait pas eu la malchance de se casser une jambe dans sa chute. On le transporta à l'hôpital. Il n'en fallut pas davantage pour que cette aventure se répandît dans toute la ville. Prévoyant le scandale, le malheureux s'était mis à crier avant même qu'on lui eût donné les premiers soins qu'il avait été victime d'un guet-apens. Il avait réclamé les gendarmes. Ceux-ci le trouvèrent à l'hôpital. Pas plus qu'à la Malterie, le récit qu'il fit ne reçut créance. La première surprise passée, il fallut songer à prévenir Madame d'Aiguin. M. Ducardonnet ne laissa personne le faire. Il voulait se charger lui-même de cette délicate mission. Après avoir cherché pendant plus d'une heure à savoir ce qui s'était passé exactement, il se rendit à Cottereau, non sans éprouver en cours de route la crainte d'avoir été devancé. Tout de suite, il annonça la nouvelle. Charles s'était cassé une jambe. Il fit une description détaillée des lieux où s'était produit l'accident. « Votre mari a glissé. Le parapet qui borde la petite esplanade dont je viens de vous parler est démoli en différents endroits. Un faux pas, et ça a été la chute. » Mais l'effort que faisait M. Ducardonnet pour masquer la vérité fut de courte durée. La première question avait déjà paru lui faire perdre le fil de ses idées. Juliette n'était pas de ces femmes qu'une démarche de ce genre égare. Au lieu de craindre le pire, un accident mortel par exemple, qu'on venait lui annoncer avec des ménagements, elle avait tout de suite soupçonné une fourberie que le ciel, particulièrement bienveillant à son égard, lui dévoilait à l'aide d'un accident sans gravité.
« Que faisait donc Charles sur cette esplanade au lieu de travailler dans son bureau » demanda-t-elle sur un ton sec.
M. Ducardonnet avait tenu à venir lui-même à Cottereau, justement pour éviter que Mme d'Aiguin n'apprît la vérité. Il pensa répondre « Mais cela n'a rien d'extraordinaire. Nous allons tous sur cette esplanade pour prendre un peu le frais, pour nous délasser. » Il garda le silence, puis balbutia «
Je ne sais pas, et il devait prendre l'air. »
Charles n'avait rien à faire là. En effet, c'est étrange. C'est vrai, c'est étrange. Pourtant, cela nous arrive souvent d'aller sur cette terrasse. Quand on a travaillé plusieurs heures de suite, c'est un délassement. Madame d'Aiguin parut un instant accepter ses explications. Puis, brusquement, elle se rappela que son mari venait de se casser une jambe. Un tel événement rendait tout possible. Elle posa d'autres questions, s'étonna que son mari se fût laissé transporter à l'hôpital. Elle fit si bien que M. Ducardonnet finit par lui avouer la vérité, ou du moins ce qu'il croyait, comme tout le monde, être la vérité. Avec des réticences désormais inutiles, il raconta que Charles avait eu la faiblesse de se laisser séduire par une des femmes qui fréquentait le lavoir de la Bourgogne. Le mari, venu à l'improviste en permission, les avait surpris. Madame d'Aiguin ne se rendit même pas à l'hôpital. Le lendemain, elle attendit M. Cesconi, le président du tribunal, à la sortie du palais de justice. Elle le mit au courant de ce qui était arrivé et lui demanda l'autorisation de quitter le domicile conjugal, car elle était de ces femmes qui songent aux conséquences de leurs actes. Il ne pouvait la lui accorder, mais il lui donna galamment des conseils. Le soir même, elle partait pour Paris avec son fils. La première chose que fit Charles sortant de l'hôpital fut de retourner à la Malterie. Il le fit la tête haute. Tout acte coupable a des mobiles que seul celui qui l'a commis connaît. Charles savait que les choses ne s'étaient pas passées comme on le disait. Jamais il n'avait eu l'intention de profiter, comme on le répétait partout, des circonstances pour détourner les femmes de leurs devoirs. Non, il n'était pas ce personnage antipathique. Il n'avait jamais été l'amant d'aucune de ces femmes. Il était même incapable de se rappeler le visage de celle dont le mari l'avait frappé. C'était suffisant pour qu'il estimât qu'il n'avait rien à se reprocher, pour que ses allées et venues sur la terrasse lui semblassent d'aussi peu de conséquences que toutes les pensées inavouables qui lui venaient à l'esprit. M. Ducardonnet fut assez froid. Une pudeur inattendue l'empêcha de parler de ce qui s'était passé. L'âge, une longue pratique des affaires, l'indifférence dans laquelle peut vivre un industriel de province, n'avaient pas tué les délicatesses de l'adolescent.
Digoin, qui avait des réponses toutes prêtes, fut décontenancé. Brusquement, il ne put s'empêcher de dire qu'il était tombé dans un abominable traquenard. Il avait trop bon cœur. Il avait voulu rendre service, aider une jeune femme à porter son linge. Le propriétaire de la malterie l'écouta avec l'intérêt approbateur et réservé de celui qui ne veut pas prendre parti, qui considère que la sagesse est d'oublier et qui n'ose le dire. Mais lorsque Digoin parla de se remettre au travail, un interlocuteur décidé se dressa devant lui. Après ce qui était arrivé, il valait mieux reprendre chacun sa liberté. Les gens de province sont tellement cancaniers. D'ailleurs, Digoin, mieux que n'importe qui, devait le savoir. Le lendemain, il se rendit au château de Vaugrigneuse. Il traversa la cour d'honneur du pas ferme de ceux qui préviennent les reproches. C'était une journée printanière. Quelle allégresse dans cette vieille demeure où tout ce qui touchait à la vie quotidienne était neuf. Il marchait sans rien voir. Il y avait une plate-bande au centre. Il ne la vit pas. Il y avait des arbres comme il n'en pousse pas dans la région, des arbres enveloppés d'une ouate verte. Les seules choses qu'il voyait, c'étaient les rideaux, les portes éclatantes de blancheur et les outils brillants du jardinier. Il ne voyait que ce qui était utile. Un vieux serviteur du type classique le reçut. Il passait par le hall, se rendant peut-être dans une salle lointaine, au moment où sonna Digoin, et il accueillit avec un mélange de déférence et de familiarité. Il sembla dire « Puisque vous venez voir Madame Perroutet, c'est que vous êtes de ses amis. Vous me laisserez, par conséquent, le temps de finir ce que j'ai à faire et vous attendrez mon retour sans impatience. » Il revint quelques instants après pour conduire le visiteur dans un salon où le jour entrait par trois portes-fenêtres. Madame Perroutet l'y rejoignit bientôt. Juliette, avant de partir, lui avait tout raconté en pleurant. Elle était à son aise dans les entrevues où il serait de mauvais goût de se rappeler la différence sociale. En de tels moments, elle exagérait même ses douleurs ou ses joies. Madame Perroutet, tout de suite informée que la malheureuse épouse quitterait Druny le soir même, s'était montrée pleine de compassion. Elle avait proposé d'aller voir Charles, d'arranger les choses. Juliette partie, elle n'en avait rien fait, par négligence, par paresse, par indifférence surtout. En présence de Digoin, elle essaya de s'animer. Il lui récita le petit discours qu'il avait préparé. Elle crut un instant qu'il disait la vérité, puis elle se souvint de Juliette. Toute cette histoire lui parut à la fois incompréhensible et ennuyeuse, et elle n'eut plus qu'une pensée, se débarrasser de l'ancien employé de son mari. Il fit le tour des gens qu'il connaissait. Certains trouvèrent qu'il ne manquait pas d'aplomb et que, dans une situation aussi ridicule que la sienne, on tâchait plutôt de se faire oublier. Il connut de nombreuses déceptions. Quand la guerre prit fin, il se rendit à Paris dans l'espoir de reprendre son poste à la Canadian Bank. Mais Juliette, qui avait obtenu entre-temps le divorce en sa faveur, avait pris ses dispositions. M. Perroutet évita toute entrevue et Digoin dut rentrer à Druny. Son père était mort quelques mois avant l'armistice de la grippe espagnole. Charles lui succéda à l'agence. 18 années s'écoulèrent alors, durant lesquelles son caractère ne fit que s'aigrir de plus en plus. Puis sa mère mourut. Ce fut pénible. La pauvre femme s'était laissée persuader que son fils était une sorte de bouc émissaire, qu'on ne lui pardonnait pas d'être resté toute la durée de la guerre à Druny, qu'il était en butte à toutes les méchancetés imaginables. Quand elle sentit sa fin approcher, elle se mit dans la tête que sa mort devait provoquer un apaisement général. Elle écrivit partout, à la mairie, à la gendarmerie, à la sous-préfecture, à la préfecture, pour annoncer qu'elle allait mourir. Personne ne lui répondit. Et elle mourut, suppliant, dans ses derniers instants de lucidité, qu'on lui permît de se lever afin de montrer à ceux qui avaient les moyens de mettre fin aux odieuses campagnes dirigées contre son fils qu'elle ne mentait pas, qu'elle allait réellement disparaître. Charles Digoin vécut quelques mois seul dans la maison de Cottereau, faisant sa cuisine lui-même par économie, se couchant chaque soir dans un lit défait derrière les persiennes que plus personne ne levait. Il avait 48 ans. il n'avait plus rien de commun avec le petit jeune homme ambitieux et arrogant qui s'était présenté partout sans qu'on l'y invitât. Au début de l'hiver 1934, il céda son agence, vendit la maison de Cottereau et, par un matin glacial et brumeux, prit le train pour Paris. C'était un train omnibus, il y avait peu de monde. Il choisit non seulement un compartiment vide, mais un wagon. Il se mit à chanter, il avait confiance en lui-même. Toute la triste existence qu'il venait de vivre pendant des années s'était évanouie et, ce qui était plus important, n'était pas à retrancher du nombre d'années qu'il avait à passer sur cette terre. Il n'avait plus d'ambition, plus de soucis. Il était libre, seul. Il chantait toujours et le bruit du train lui donnait l'illusion que c'était un autre qui chantait, car sa voix, dans le vacarme, était dépouillée des imperfections qui la lui faisaient habituellement reconnaître. De temps en temps, le train s'arrêtait. Un nom de station incompréhensible retentissait dans la brume. Une portière claquait. Et lorsque le train s'ébranlait, Charles se remettait à chanter.